you.
Vous êtes bien sur Radio Canut et vous écoutez en ce moment le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis proposée par la compagnie Les Montures du Temps. Aujourd'hui, nous continuons le cycle de lecture autour de Brecht et nous allons lire une pièce écrite en 1938, finalisée en 1940, qui s'appelle La bonne âme du Sept-Chouan. Avec nous dans le studio, Jessica Jargot, bonjour.
Bonjour.
Steven Fafourneau.
Bonjour.
Et Florent Maréchal.
Bonjour.
On a décidé en fait de sélectionner que quelques petits extraits puisque cette pièce fait une petite centaine de pages. On vous invite évidemment à la lire puisque c'est vraiment encore une fois un chef-d'œuvre, mais quelle pièce de Brecht n'est pas un chef-d'œuvre ? On se le demande. En tous les cas, nous avons décidé de lire le prologue, la scène 1, un tout petit extrait de la scène 2, la scène 3 et la scène 5. Sans vous faire attendre plus en avant, je vous laisse écouter Wang, le marchand d'eau. Prologue, une rue de la capitale du Sichuan. C'est le soir. Le marchand d'eau Wang se présente au public.
Je suis porteur d'eau, ici, dans la capitale du Sichuan. Mon commerce est pénible. Quand l'eau se fait rare, je dois aller loin pour en trouver. Et quand il y en a beaucoup, moi, je suis sans un sou. De toute façon, la pauvreté est monnaie courante dans notre province. On dit partout que seuls les dieux pourraient encore nous aider. À mon indicible joie, un marchand de bestiaux qui voyage beaucoup et vient souvent par ici m'apprend que quelques-uns des dieux les plus éminents sont déjà en route et qu'ici aussi, dans le Sichuan, on peut s'attendre à leur venue. Il paraît que ça donne grand souci au ciel, toutes ces plaintes qui s'élèvent jusqu'à lui. Ça fait 3 jours que j'attends ici, aux portes de la ville. Surtout quand vient le soir, pour être le premier à les accueillir. Il faut dire qu'après, entouré comme ils vont l'être par des gens très haut placés, je n'en aurai sans doute plus l'occasion. Ils seront de toute façon débordés, pourvu que je les reconnaisse. Car ils ne sont pas obligés d'arriver ensemble. Ils viendront peut-être séparément, pour ne pas trop se faire remarquer. Cela, là, ça ne peut pas être eux. Ils rentrent du travail, ils ont les épaules toutes courbées à force de porter. Celui-là non plus, c'est pas un dieu. Il a de l'encre sur les doigts. Impossible. Au mieux, c'est un employé de bureau à la cimenterie. Même les deux messieurs, là. Je suis sûr que ce ne sont pas des dieux. Ils ont des têtes de brutes, des têtes de types qui cognent souvent, et les dieux n'ont pas besoin de ça. Mais ces trois-là, c'est déjà autre chose. Ils ont l'air bien nourris, Ils ne présentent aucun signe extérieur d'une quelconque activité et ils ont de la poussière sur les pieds. Ce qui veut dire qu'ils viennent de loin. Ce sont eux. Disposez de moi, inspirez.
Nous sommes attendus, ici.
Depuis longtemps, mais j'étais seul à savoir que vous alliez venir.
Dans ce cas, nous avons besoin d'un toit pour la nuit. Peux-tu nous en indiquer un ?
Un ? D'innombrables. La ville se tient à votre service, ô inspiré. Où désirez-vous habiter ?
Les dieux se regardent d'un air entendu.
Prends la première maison, mon fils. Et c'est primo avec la première.
J'ai seulement un peu peur de m'attirer l'inimitié des puissants. Si j'avantage spécialement l'un d'eux...
Dans ce cas, nous te l'ordonnons. Prends la première.
C'est monsieur Faux, là, en face. Patientez un instant.
Il court à une maison et frappe à la porte. On ouvre, mais on voit qu'il était conduit. Il revient, hésitant.
C'est bête. Justement, monsieur Faux n'est pas chez lui. Et ses domestiques n'osent rien faire sans son ordre, car il est très sévère. Il va faire un de ses tapages, quand il apprendra qui a été éconduit de chez lui, non ?
Les dieux souriant.
Oui, bien sûr.
Sûrement.
Alors, encore un instant. La maison voisine appartient à la veuve Su. Elle va être folle de joie.
Il y court, mais apparemment il est là aussi éconduit.
Il faut que j'aille me renseigner là en face. Elle dit qu'elle n'a qu'une toute petite chambre et qui n'est pas en état. Je vais tout de suite m'adresser à Monsieur Cheng.
Mais une petite chambre nous suffit. Dis que nous venons.
Même si elle n'est pas rangée, peut-être que ça grouille d'araignées.
Ça ne fait rien. Là où se trouvent des araignées, il y a peu de mouches. Le troisième dieu, amicalement à Wang.
Va chez Monsieur Cheng ou autre part, mon fils. Les araignées me dégoûtent quand même un peu.
Wang frappe à nouveau quelque part et on le laisse entrer. Une voix à l'intérieur.
Va te faire voir avec tes dieux. On a d'autres soucis.
Wang revient vers les dieux.
Monsieur Cheng est en tous ses états. Il a de la famille plein la maison et il n'ose pas paraître devant vous, inspiré. Entre nous, je crois qu'il y a parmi eux de méchantes personnes qu'il ne veut pas vous montrer. Il a grand peur de votre jugement. C'est ça.
Sommes-nous donc si terribles ?
Rien que pour les méchantes personnes, n'est-ce pas ? On sait bien que la province du Kuang est affligée depuis des décades par des inondations.
Tiens, et pourquoi ça ?
Eh bien, parce que là-bas ne règne aucune crainte des dieux.
Sottise, c'est parce qu'ils ont laissé crouler le barrage.
Chut ! Tu y crois encore, mon fils ?
Comment peux-tu poser une pareille question ? Je n'ai qu'à aller une maison plus loin pour vous choisir un gîte. On se lèche les doigts à l'idée de vous héberger. Coïncidence malheureuse, vous comprenez ? J'y cours.
Il s'éloigne, hésitant, et reste indécis au milieu de la rue. Le deuxième dieu. Qu'est-ce que je disais ?
Il se peut toujours que ce soit des coïncidences.
Ouais, c'est ça. Coïncidence au Chun, coïncidence au Kuang, coïncidence au Sichuan. Il n'y a plus de gens qui craignent les dieux, c'est la vérité vraie. Que vous ne voulez pas regarder en face. Notre mission a échoué, convenez-en.
Nous pouvons encore trouver de bonnes âmes à tout instant. On ne peut pas se rendre les choses trop faciles non plus.
À présent, il ne reste plus que la prostituée Shen Te. Celle-là ne peut pas dire non. Shen Te ! Ils sont là. Je n'arrive pas à leur trouver un toit. Ne peux-tu les prendre pour une nuit ?
Je ne crois pas, Wang. J'attends un galant. Mais comment est-ce possible que tu ne leur trouves pas de toit ?
Je ne peux pas le dire maintenant. Tout le Sichuan n'est qu'un tas de fumier.
Quand il viendra, il faudra que je reste caché. Alors peut-être qu'il s'en irait. Il compte encore sortir avec moi.
En attendant, est-ce qu'on ne peut pas déjà monter ?
Mais ne parlez pas trop fort. Peut-on leur parler ouvertement ?
Non. Il faut qu'ils ne sachent rien de ton métier. Nous attendrons plutôt en bas. Mais tu ne t'en iras pas avec lui.
Ça ne va pas bien pour moi. Et si d'ici demain matin je n'ai pas réuni l'argent de mon loyer, je vais être expulsé.
Dans un moment pareil, on n'a pas le droit de compter.
Je ne sais pas. Malheureusement, l'estomac grogne, même si c'est l'anniversaire de l'empereur. Mais enfin, je vais les prendre.
On la voit éteindre la lumière.
Je crois que c'est sans espoir.
Le premier dieu s'avance vers Wang. Wang prend peur quand il les voit derrière lui.
Le gîte est trouvé.
Ah bon ? Bah allons-y.
Alors, ce n'est pas si pressé. Prenez votre temps. On est en train de mettre la chambre en ordre.
Le troisième dieu.
Nous allons donc nous asseoir ici et attendre. Mais il y a beaucoup trop de passages ici. Je crains. Allons peut-être là en face.
Le deuxième dieu. Nous aimons bien regarder les gens. C'est justement pour ça que nous sommes ici.
Mais il y a des courants d'air.
Oh, nous sommes des gens à endurcis.
Mais peut-être souhaitez-vous que je vous montre le Sechu en nocturne. On fait une petite promenade.
Nous nous sommes déjà pas mal promenés aujourd'hui.
Souriant.
Mais si tu veux que nous partions d'ici, tu n'as qu'à le dire.
Il s'éloigne.
Est-ce que ça te plaît ici?
Il s'assoit sur les marches d'une maison. Wang s'assoit par terre, un peu à l'écart.
Vous allez habiter chez une jeune fille célibataire. C'est la meilleure personne du Sichuan.
C'est bien.
Tout à l'heure, quand j'ai ramassé le gobelet, ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Aurait-il remarqué quelque chose? Je n'ose plus les regarder en face.
Tu es très épuisé.
Un peu. C'est de courir.
Est-ce que c'est très difficile ici pour les gens?
Pour les bons, oui.
Pour toi aussi?
Je sais à quoi vous pensez. Je ne suis pas bon. Mais pour moi non plus, ce n'est pas facile.
Entre-temps, un monsieur est apparu devant la maison de Shen Te et a sifflé plusieurs fois. Wang a tressailli à chaque fois. Le troisième dieu doucement à Wang.
Je crois qu'il est parti maintenant.
Il s'enfuit. À peine est-il parti que Shen Te revient. Elle cherche de l'autre côté et aperçoit les dieux. Shen Te.
Êtes-vous les inspirés? Mon nom est Shen Te. Cela me ferait plaisir si vous vouliez vous contenter de ma chambre.
Mais où donc est passé le marchand d'eau?
J'ai dû le manquer.
Il a dû croire que tu ne viendrais pas. Et il n'a plus osé revenir nous trouver.
Le troisième dieu ramasse la palanche.
Nous allons la ranger chez toi. Il en a besoin.
Conduits par Shen Te, ils entrent dans la maison. La nuit tombe, puis le jour renaît. À l'aube, les dieux reparaissent à la porte, conduits par Shen Te, qui les éclaire avec une lampe. Ils prennent congé, le premier dieu.
Cher Shen Te, nous te remercions pour ton hospitalité. Nous n'oublierons pas que c'est toi qui nous as accueillis. Et tu rendras son ustensile au porteur d'eau. Dis-lui que nous le remercions, lui aussi, pour nous avoir présenté une bonne âme.
Je ne suis pas bonne. Je dois vous faire un aveu. Quand Wang m'a demandé un toit pour vous, j'ai hésité.
Hésiter n'est rien, pourvu qu'on l'emporte. Sache-le que tu nous as donné bien plus qu'un toit pour la nuit. Beaucoup en sont venus à douter, et parmi eux certains dieux, qu'il y ait encore de bonnes âmes. C'est d'abord pour cela que nous avons entrepris ce voyage. Nous le poursuivons dans la joie, puisque nous en avons déjà trouvé une. Au revoir.
Attendez, inspirez. Je ne suis pas du tout sûre d'être bonne. J'aimerais bien l'être, mais comment payer mon loyer? Je vais donc vous l'avouer. Je me vends pour pouvoir vivre, mais même comme ça, je n'arrive pas à m'en tirer, car il y a tellement qui sont obligés de le faire. Je suis prête à tout, mais qui ne l'est pas? Assurément, je serais heureuse de pouvoir observer les commandements de l'amour filial et de la sincérité. Ne pas convoiter la maison de mon prochain me serait une joie, et être fidèlement attachée à un homme me serait agréable. Moi aussi, j'aimerais ne tirer profit de personne et ne pas dépouiller celui qui est désarmé. Mais comment faire tout ça? Même quand je n'observe pas certains commandements, j'arrive à peine à m'en sortir.
Tout ceci, Shen Te, ce ne sont que les doutes d'une bonne âme.
Adieu, Shen Te. Et salue pour moi bien cordialement le porteur d'eau. Il a été pour nous un véritable ami.
Je crains que ça lui ait mal réussi d'ailleurs.
Que la vie te soit bonne.
Et surtout, fais le bien, Shen Te.
Il s'apprête à partir, ils font déjà des signes. Shen Te, anxieuse.
Mais je ne suis pas sûre de moi, inspirée. Comment être bonne quand tout est si cher?
Le deuxième dieu. Ah, ça, nous n'y pouvons malheureusement rien. Nous ne pouvons intervenir dans les questions économiques.
Arrêtez. Attendez un instant. Si elle disposait d'un peu plus, peut-être y arriverait-elle plus facilement.
Nous ne pouvons rien lui donner. Nous ne pourrions pas en répondre là-haut.
Et pourquoi?
Ils s'approchent leur tête et discutent avec animation. Gênés à Shen Te.
Nous savons que tu n'as pas réuni tout l'argent du loyer. Nous ne sommes pas pauvres et bien sûr, nous allons payer pour la nuit. Et tout de suite.
Il lui donne de l'argent.
Mais surtout, ne dis à personne que nous avons payé. Ça pourrait être mal interprété.
Très.
Non, c'est permis. Nous pouvons tranquillement lui payer notre gîte pour la nuit. Dans la résolution, rien ne s'y opposait. Au revoir, donc.
Les dieux sortent en hâte. Un petit débit de tabac. Scène 1. La boutique n'est pas encore complètement installée et pas encore ouverte. Chaîne T au public.
Cela fait 3 jours que les dieux sont partis. Ils ont dit qu'ils voulaient me payer leur gîte pour la nuit. Et quand j'ai vu ce qu'ils m'avaient donné, j'ai vu qu'il y avait plus de $1,000 d'argent. Avec cet argent, je me suis acheté un débit de tabac. Hier, j'ai emménagé ici et j'espère pouvoir faire maintenant beaucoup de bien. Il y a par exemple cette Madame Shin, l'ancienne propriétaire de la boutique. Déjà hier, elle est venue me demander du riz pour ses enfants. Et aujourd'hui, je la vois de nouveau traverser la place avec son pot.
Entre Madame Shin. Les femmes s'inclinent l'une devant l'autre.
Bonjour, Madame Shin.
Bonjour, Mademoiselle Shen Te. Comment vous plaisez-vous dans votre nouveau foyer ?
Bien. Comment vos enfants ont-ils passé la nuit ?
Hélas, dans une maison étrangère, si on peut appeler cette baraque une maison. Le plus petit tousse déjà.
C'est malheureux.
Être malheureux ? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Pour vous, ça va bien. Mais ici, dans cette baraque, vous allez faire toutes sortes d'expériences. C'est un quartier miséreux.
Pourtant, les ouvriers de la cimenterie viennent à midi, comme vous me l'avez dit.
Mais à part ça, personne n'achète, hein. Pas même le voisinage.
Vous ne m'en avez rien dit quand vous m'aviez vendu la boutique.
Ah, maintenant, ne me faites surtout pas de reproches en partie du marché. D'abord, vous me volez notre foyer, à moi et à mes enfants. Et après, on parle de baraque et de quartier miséreux, mais c'est le comble. Elle pleure.
Je vais tout de suite vous chercher le riz.
Je voulais aussi vous demander de me prêter un peu d'argent. Chantait tout en versant le riz dans le pot.
Ça, je ne le peux pas. C'est que je n'ai encore rien vendu.
Mais j'en ai besoin. De quoi vais-je vivre ? Vous m'avez tout pris. Maintenant, vous m'étranglez. Je vais vous déposer mes enfants sur le seuil, espèce d'égorgeuse. Elle lui arrache le pot des mains.
Ne soyez pas si en colère. Vous allez finir par renverser le riz.
Entre un couple d'un certain âge et un homme aux vêtements misérables. Madame Chin. Mais qu'est-ce que c'est que cela ?
Quand je suis venue de la campagne à la ville, c'était mes premiers logeurs.
Au public.
Quand mon peu d'argent a été dépensé, ils m'ont mise à la rue. Peut-être ont-ils peur que maintenant je dise non. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas de toit. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont besoin de quelqu'un. Comment pourrait-on dire non ?
Amicalement aux nouveaux venus.
Soyez les bienvenus. C'est volontiers que je vais vous donner un toit. Mais je n'ai qu'une toute petite chambre derrière la boutique.
Pardon de vous déranger. Je suis au chômage.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
J'ai entendu dire que vous ouvrez demain. Donc j'ai pensé que ça allait pas être facile de déballer sans faire de la casse. Vous n'auriez pas une cigarette ?
Madame Chim, c'est un peu fort de demander du tabac, hein. C'est encore si vous aviez du pain.
Le pain, c'est cher. Nous deux taf d'une cigarette et je me sens un autre homme.
Chente lui donne des cigarettes.
C'est important d'être un homme neuf. J'ouvre ma boutique avec vous. Vous allez me porter chance.
Le sans-travail allume vite une cigarette, aspire et s'en va en toussant.
Si c'est comme ça que vous ouvrez la boutique...
Madame Chin. Eh bah, elle va pas vous faire plus de 2 jours votre boutique.
Pourtant, il a dit qu'il n'avait rien. Madame Chin, ça, on pourrait le faire si on ne croyait pas toujours obligé de jouer à la bienfaitrice. Gente, allez rouspéter, je vais tout de suite vous refuser le gîte et le riz et je vais le renverser.
Le riz aussi, c'est toi ?
Ils sont mauvais, ils ne sont amis de personne, et ils jalousent le pot de riz des autres, ils ont eux-mêmes besoin de tout. Qui pourrait leur jeter la pierre ?
Entre un petit homme, c'est le menuisier. Madame Chin le regarde et s'en va en hâte. Je repasserai demain.
Arrêtez, Madame Chin. Justement, c'est de vous que j'ai besoin.
Le petit homme.
Elle sait pourquoi elle se sauve. Vous êtes la nouvelle propriétaire de la boutique ? Ah, vous remplissez déjà les étagères. Mais dites donc, vous, elles ne vous appartiennent pas ? Sauf si vous les payez. La racaille qui était installée ici ne les a pas payées.
Aux autres ?
Il faut dire que je suis le menuisier.
Mais je pensais que cela faisait partie de l'installation que j'ai payée.
Tromperie, rien que des tromperies. Naturellement, vous êtes de mèche avec cette Chine. J'exige mes 100 dollars d'argent, aussi vrai que je m'appelle Linto.
Comment pourrais-je payer ça? Je n'ai plus d'argent.
Alors je vous fais saisir, tout de suite. Vous payez tout de suite ou je vous fais saisir.
Le cousin. Ça n'ira pas le mois prochain?
Non.
Ne soyez pas dur, monsieur Linto. Je ne peux pas satisfaire tout de suite à toutes les exigences. Vois, le cheval de la carriole s'arrête devant une touffe d'herbe. Prenez patience, rien qu'un petit moment, monsieur Linto.
Et qui prendra patience envers moi et envers ma famille?
Il retire du mur une étagère comme s'il voulait l'emporter.
Vous payez ou j'emporte les étagères.
Ma chère Chente, pourquoi ne confies-tu pas l'affaire à ton cousin, au menuisier? Ce que vous exigez, mettez-le par écrit et le cousin de mademoiselle Chente payera.
Mais ces cousins-là, on les connaît.
Non, ne riez pas si bêtement, je le connais personnellement.
C'est un homme de parole.
Bien, il aura ma facture.
Il renverse l'étagère, s'assoit dessus et établit sa facture.
Il va te dépouiller pour ces 3 planches si on ne l'arrête pas. Ne reconnais jamais une seule créance, qu'elle soit justifiée ou non, ou tu seras submergé de créances. Jette. Je suis le cousin.
Vous êtes quoi ?
Mon nom est Shuita.
Le cousin ? Mais c'était pourtant une blague, elle n'a pas le moindre cousin.
Incroyable, si tôt le matin.
Monsieur, si vous êtes le cousin de l'hôtesse, alors trouvez-nous en vitesse quelque chose pour le petit déjeuner.
Les premiers clients seront bientôt là, je vous en prie. Habillez-vous vite, que je puisse ouvrir ma boutique.
Votre boutique ? C'est la boutique de notre ami Chente, je pense. Quoi ? C'est pas sa boutique ?
Elle nous a donc possédé. D'abord, où est-elle fourrée ?
Elle a été retenue. Elle vous fait dire que désormais, puisque je suis là, elle ne peut plus rien faire pour vous.
Et nous qui la prenions pour une bonne personne.
Ne le croyez pas, cherchez-la.
Oui, c'est ce que nous allons faire. Toi, et toi, vous la cherchez partout. Nous et grand-père, nous restons ici pour tenir la position. Pendant ce temps, le gamin pourra aller chercher de quoi manger.
Au gamin.
Et tu vois le pâtissier là-bas au coin ? Faufile-toi et remplis ta blouse.
Et prends aussi quelques petites gâteaux dorés.
Mais attention que le pâtissier ne t'attrape pas. Ne te mets pas dans les jambes du policier.
Le gamin fait oui de la tête, les autres achèvent de s'habiller. Chuita.
Est-ce qu'un vol de gâteau ne va pas nuire à la réputation de cette boutique qui vous a donné asile ?
Ne vous occupez pas de lui, nous n'allons pas tarder à la retrouver. Elle va bien le remettre à sa place.
Le neveu, le frère, la belle-sœur et la nièce sortent. La belle-sœur en sortant. Gardez-nous quelque chose pour le petit déjeuner. Chuita, calmement.
Ils ne la trouveront pas. Naturellement, ma cousine regrette de ne pouvoir respecter indéfiniment les règles de l'hospitalité. Mais vous êtes trop nombreux, malheureusement. Ceci est un débit de tabac. Et il fait vivre mademoiselle Chente.
Une chose pareille n'aurait jamais pu venir aux lèvres de notre Chente.
Peut-être avez-vous raison.
Au menuisier.
Le malheur, c'est que la lumière est trop grande dans cette ville pour qu'une seule personne puisse y remédier. C'est affligeant que rien n'ait changé au cours de 11 siècles, depuis que quelqu'un a composé ce quatrain. Le gouverneur, interrogé sur ce qu'il faudrait pour aider ceux qui gèlent dans la ville, a répondu: une couverture longue de 10 000 pieds qui simplement couvrirait tous les faubourgs.
Il se met à ranger la boutique.
Je vois que vous vous efforcez de mettre en ordre les affaires de votre cousine. Il y a là, reconnu devant témoin, une petite dette à régler pour les étagères. 100 dollars d'argent.
Chuita, sans rudesse, tirant la facture de sa poche.
Ne croyez-vous pas que 100 dollars d'argent, c'est un peu trop?
Non, et je ne peux rien rabattre. J'ai femme et enfants à nourrir.
Dur.
Combien d'enfants?
4.
Alors je vous offre 20 dollars d'argent.
Vous êtes fou! Ces étagères sont en noyer.
Alors emportez-les.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Elles sont trop chères pour moi. Je vous prie d'emporter ces étagères en noyer.
Bien envoyé.
J'exige qu'on aille chercher Mademoiselle Chente. C'est une meilleure personne que vous, semble-t-il.
C'est certain. Elle est ruinée.
Le menuisier prend résolument une étagère et la porte jusqu'au seuil.
Maintenant, vous n'avez plus qu'à entasser votre stock de tabac par terre. Moi, ça m'est égal.
Aidez-le.
Le mari saisit lui aussi une étagère et la porte en ricanant jusqu'au seuil.
Allez, dehors les étagères!
Chien que tu es! Ma famille devrait-elle mourir de faim?
Comme je ne veux pas entasser mon stock de tabac par terre, je vous offre encore une fois 20 dollars d'argent.
100!
Chuita, impassible, regarde par la fenêtre. Le mari s'apprête à sortir l'étagère.
Au moins ne la casse pas contre le chambranle, crétin!
Désespéré.
Mais pourtant elles sont faites sur mesure. Elles vont dans ce creux et nulle part ailleurs. Les planches sont fichues, monsieur.
Justement, c'est bien pour ça que je ne vous offre que 20 dollars d'argent, parce que les planches sont fichues.
La femme piaille de joie.
Je ne peux plus suivre. Gardez les étagères et payez ce que vous voulez.
20 dollars d'argent.
Il pose deux grosses pièces de monnaie sur la table. Le menuisier les prend.
Pour un tas de planches fichues, c'est bien assez. Ah oui, c'est peut-être bien assez pour m'enivrer.
Il sort.
Nous en voilà débarrassés.
Elles sont en noyer. Emportez-les. 100 dollars d'argent. J'ai 4 enfants. Alors j'en paye 20. Mais pourtant elles sont fichues, justement. 20 dollars d'argent. Ah, bravo, bravo, bravo le cousin. Merci Chuita. C'est comme ça qu'il faut traiter ces types-là, ces parasites.
Oui. Partez vite.
Pardon?
Oui, vous. Vous êtes des voleurs et des parasites. Si vous partez vite, sans perdre le temps à répliquer, vous pouvez encore vous en tirer. Tu regardes avec ces yeux-là?
Pourquoi cette corde?
Va, sœur, va. Je n'ai pas d'argent, rien, pas une sapèque. Et si j'en avais une, ce que j'achèterais d'abord, ce n'est pas toi, mais un gobelet d'eau.
Il commence à pleuvoir.
Pourquoi cette corde? Vous n'avez pas le droit.
Est-ce que ça te regarde? Fiche le camp.
Il pleut.
N'essaie pas de te mettre sous cet arbre.
Chente reste immobile sous la pluie.
Non.
Sœur, laisse tomber, ça ne te sert à rien. Avec moi, pas d'affaire. Et je te trouve trop laide, les jambes arquées.
Ce n'est pas vrai.
Ne les montre pas. Allez, bon Dieu, viens sous l'arbre puisqu'il pleut.
Elle va lentement s'asseoir sous l'arbre.
Pourquoi voulez-vous faire ça?
Tu veux le savoir? Alors je vais te le dire pour me débarrasser de toi.
Un temps.
Un aviateur. Tu sais ce que c'est?
Oui, des aviateurs, j'en ai vu dans une maison de thé.
Non, tu n'en as pas vu. Peut-être quelques imbéciles vaniteux avec des casques de cuir. Des gars qui n'ont pas d'oreilles pour les moteurs ni le sens d'une machine. Ça se retrouve dans un zinc. Parce que ça peut graisser la patte au chef de hangar. Dis un de ces gars. Laisse tomber ton zinc à travers les nuages, d'une hauteur de 2000 pieds, puis redresse-le d'un coup de manche à balai. Et il dira, c'est pas dans le contrat. Celui qui ne vole pas en sachant poser son zinc comme si c'était son derrière, celui-là n'est pas un aviateur, c'est un imbécile. Moi, je suis un aviateur. Et pourtant, je suis le plus grand des imbéciles. Car à l'école de Pékin, j'ai lu tous les livres sur l'aviation. Mais il y a une page d'un livre que je n'ai pas lu, et sur cette page, il était écrit qu'on n'avait plus besoin d'aviateur. Et voilà comment je suis devenu un aviateur sans avion, un de l'aéropostale sans courrier. Mais ce que ça signifie, tu ne peux pas le comprendre.
Pourtant, je crois que je le comprends.
Non. Je te dis que tu ne peux pas le comprendre, donc tu ne peux pas le comprendre.
Chantait entre le rire et les larmes.
Quand on était petit, on avait une grue avec une aile estropiée. Elle était gentille avec nous, ne nous en voulait d'aucune taquinerie et se pavanait derrière nous en nous criant de ne pas aller trop vite. Mais en automne et au printemps aussi, quand les grands vols passaient au-dessus du village, elle devenait très inquiète et je la comprenais bien.
Ne pleure pas.
Non.
Ça abîme le teint.
J'ai fini.
Elle sèche ses larmes avec sa manche. Adossé à l'arbre, sans se tourner vers elle, il tend la main vers son visage.
Tu ne sais même pas t'essuyer la figure comme il faut.
Il la lui essuie avec un mouchoir. Un temps.
S'il fallait vraiment que tu restes pour que je ne me pende pas, alors dis au moins quelque chose.
Je ne sais rien.
Au fait, sœur, pourquoi veux-tu me détacher de la branche?
J'ai eu peur. Sûrement que vous vouliez faire ça uniquement parce que ce soir est si triste.
Au public.
Dans notre pays, il ne devrait pas y avoir de soir triste, ni de grands ponts sur les fleuves, ni même l'heure entre nuit et matin, et non plus tout l'hiver, c'est dangereux. Car en face de la misère, il suffit d'un rien, et les hommes rejettent l'insupportable vie.
Parle de toi.
De quoi? J'ai une petite boutique.
Tu ne fais pas le tapin, tu as une boutique.
Oui, j'ai une boutique, mais... C'est vrai, avant, je faisais le trottoir.
Et la boutique? C'est sans doute les dieux qui te l'ont offerte?
Oui.
Un beau soir, ils se sont retrouvés là, et ils ont dit, voilà de l'argent.
Non, c'était un matin.
Tu n'es pas spécialement distrayante.
Je sais jouer de la sitar, un peu, et imiter des gens.
D'une voix profonde, elle imite un homme plein de dignité.
Quelle drôle de chose, je dois avoir oublié mon escarcelle.
Bref, mais enfin j'ai eu la boutique. J'ai donné d'abord la sitar. Maintenant, me suis-je dit, je peux être une buse, ça fait rien. J'ai dit, je suis riche, je vais seule, je dors seule. J'ai dit, toute une année, je ne fais plus rien avec un homme.
Mais à présent, tu en épouses un? Celui de la maison de thé au bord de l'étang. Au fait, qu'est-ce que tu sais de l'amour?
Tout.
Rien, sœur. Ou est-ce que c'est agréable?
Non.
De la main, lui effleure le visage sans se tourner vers elle.
Ça, c'est agréable?
Oui.
Toi, tu te contentes de peu. Quelle ville!
Vous n'avez pas d'amis?
Tout un tas, mais pas un qui veuille entendre que je suis toujours sans emploi. Ils font une tête comme s'ils entendaient quelqu'un se plaindre qu'il y a encore de l'eau dans la mer. Est-ce que tu as un ami, toi?
Un cousin.
Alors surtout, méfie-toi de lui.
Il n'est venu qu'une seule fois. Maintenant, il est parti. Il ne reviendra plus jamais. Mais pourquoi parlez-vous avec tant de désespoir? Comme on dit, parler sans espoir, c'est parler sans bonté.
Cause toujours. Une voix, c'est toujours une voix.
Il y a encore des gens bienveillants au dépit de la grande misère. Quand j'étais petite, un jour, je suis tombée, avec une charge de petits bois. Un vieil homme m'a relevée et m'a même donné une sapèque. Je me le suis souvent rappelé. Surtout, ceux qui ont peu à manger, ils donnent volontiers. Il est probable que ces personnes aiment tout simplement montrer ce qu'elles peuvent faire, et comment pourraient-elles mieux le montrer qu'en étant bienveillantes? La méchanceté n'est qu'une sorte de maladresse. Quand quelqu'un chante une chanson, ou construit une machine, ou plante du riz, En fait, c'est de la bienveillance. Vous aussi, vous êtes bienveillant.
Alors, il t'en faut pas beaucoup, apparemment.
Oui. Et je viens de sentir une goutte de pluie.
Où ?
Entre les yeux.
Plutôt vers le droit ou plutôt vers le gauche ?
Plutôt vers le gauche.
Bien.
Au bout d'un moment, d'une voix somnolente.
Et tu en as fini avec les hommes ?
Mais je n'ai pas les jambes arquées.
Peut-être pas.
Certainement pas.
Sonne s'adossant, fatigué, contre l'arbre.
Mais comme je n'ai rien mangé depuis 2 jours et rien bu de la journée, je ne pourrais pas t'aimer, sœur. Même si je le voulais.
C'est bon, sous la pluie.
Le débit de tabac. Shuita est assis derrière le comptoir et lit le journal. Il ne prête pas la moindre attention à Madame Shin, qui passe la serpillière tout en parlant.
Si jamais certains bruits se répandent dans le quartier, une petite boutique comme ça, c'est vite ruiné. Vous pouvez me croire. Il serait grand temps que vous, un homme comme il faut, vous éclaircissiez cette sombre affaire entre la demoiselle et ce Yang Sun de la rue jaune. N'oubliez pas que Monsieur Shufu, le barbier d'à côté, un homme qui possède 12 maisons et n'a qu'une seule femme, vieille porte sur le marché, a laissé voir en ma présence pas plus tard qu'hier qu'il portait un intérêt flatteur à la demoiselle. Il s'était même déjà renseigné sur sa situation de fortune. C'est bien la preuve d'une sincère inclination, je dirais.
Comme elle ne reçoit pas de réponse, elle finit par sortir avec le seau. La voix de Sun, du dehors.
C'est la boutique de Mademoiselle Shente ?
Oui, c'est elle. Mais aujourd'hui, le cousin est là.
Shuita court du pas léger de Shente jusqu'à un miroir et va commencer à arranger ses cheveux. Quand il s'aperçoit de son erreur dans le... son erreur. Il se détourne en riant doucement. Entrée de Yang Sun. Derrière lui, Madame Shin, curieuse. Passant devant lui, elle va dans le débarras. Sun.
Je suis Yang Sun.
Shuita s'incline.
Shente est là ?
Non, elle n'est pas là.
Mais vous êtes sans doute au courant de ce que nous sommes l'un pour l'autre.
Il commence à autopsier la boutique.
Une boutique en chair et en os. Moi qui pensais qu'elle exagérait un peu.
Satisfait, elle jette un coup d'œil dans les petites boîtes et les petits pots de porcelaine.
Mon vieux, je vais revoler.
Il se prend un cigare à Shuita et lui tend du feu.
Vous croyez qu'on peut encore tirer $300 d'argent de cette boutique ?
Puis-je vous demander si vous avez l'intention de la vendre tout de suite ?
Est-ce qu'on aurait les 300 en liquide ?
Shuita fait non de la tête.
C'était bien de sa part d'avoir lâché les 200 tout de suite. Mais ils ne me serviront à rien sans les 300 qui manquent encore.
C'était peut-être un peu prématuré de vous promettre cet argent. Ça peut lui coûter la boutique. Comme on dit, manque de temps s'appelle le vent qui fait tomber l'échafaudage.
L'argent, il me le faut vite ou pas du tout. Et quand il s'agit de donner quelque chose, la fille n'est pas de celle qui hésite longtemps. Entre nous, d'homme à homme. Jusqu'ici, elle n'a hésité en rien.
Ah.
Ce qui ne fait que parler en sa faveur.
Puis-je savoir à quoi serviraient les $500 d'argent ?
Bien sûr. Je vois qu'il est question de me tâter le pouls. Le Knef de hangar à Pékin, un de mes amis de l'école de pilotage, peut me procurer la place si je lui crache $500 d'argent.
Est-ce que la somme n'est pas anormalement élevée ?
Non. Il faut qu'il découvre une négligence chez un pilote qui a une famille nombreuse et qui, pour cette raison, est très ailé. Vous comprenez ? Mais soit dit entre nous, et Shente n'a pas besoin de le savoir.
Peut-être pas. Juste une chose. Est-ce que le mois d'après, le chef de hangar ne va pas vous vendre ?
Pas moi. Avec moi, il n'y aura pas de négligence. Je suis resté sans place assez longtemps.
Shuita fait signe que oui.
Le chien affamé ramène plus vite la charrette à la maison.
Il l'observe longuement.
C'est une très grande responsabilité. Monsieur Yang Sun, vous exigez de ma cousine qu'elle renonce au peu qu'elle possède et à tous les amis qu'elle a dans cette ville et qu'elle remette entièrement son sort entre vos mains. Je suppose que vous avez l'intention d'épouser Shente.
J'y serais disposé.
Mais n'est-ce pas dommage de bazarder la boutique pour quelques dollars d'argent ? On nous en donnera peu, s'il faut vendre vite. Avec les $200 d'argent dont vous disposez, le loyer d'un semestre serait assuré. Et ne seriez-vous pas tenté de tenir le débit de tabac ?
Moi ? Verrait-on Yang Soon, le pilote, derrière un comptoir ? Monsieur désire un cigare bien fort ou un cigare doux ? Ce n'est pas une affaire pour les Yangsen, pas dans ce siècle.
Permettez-moi de vous demander, est-ce que le pilotage est une affaire ?
Sun tire une lettre de sa poche.
Monsieur, je touche $250 d'argent par mois. Voyez-vous même cette lettre ? Ici le timbre et le cachet. Pékin.
$250 d'argent. C'est beaucoup.
Et croyez-vous que je vole pour rien ?
La place a l'air d'être bonne. Monsieur Yang Soon, ma cousine m'a chargé de vous aider à obtenir cette place de pilote, qui représente tout pour vous. Du point de vue de ma cousine, je ne vois pas d'objection valable à ce qu'elle écoute la voix de son cœur. Elle est parfaitement en droit de prendre part aux joies de l'amour. Je suis prêt à faire argent de tout ce qui est ici. Voici la propriétaire de la maison, Madame Mitsu, à qui je vais demander conseil pour la vente.
Bonjour, Monsieur Shuita. Il s'agit sans doute du loyer de la boutique qui arrive à échéance après-demain.
Madame Mitsu, des circonstances sont intervenues qui font douter que ma cousine puisse continuer de tenir la boutique. Elle pense à se marier et son futur époux...
Il présente Kyonson.
Monsieur Yangson l'emmène à Pékin où ils veulent se faire une nouvelle existence. Si l'on me donne assez de mon tabac, je vends.
Combien vous faut-il donc ?
300 sur la table.
Non, 500.
Hassan, peut-être que je peux vous épauler. Ashwita, combien a coûté votre tabac ?
Ma cousine, elle, l'a payé $1,000 d'argent. Il en a été vendu très peu.
$1,000 d'argent ? Elle a été roulée, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Je vous paye $300 d'argent pour toute la boutique si vous déménagez après-demain.
C'est ce qu'on va faire. Ça marche, vieux.
C'est trop peu.
C'est suffisant.
Il me faut au moins 500.
Pourquoi ?
Permettez que je discute de quelque chose avec le fiancé de ma cousine.
Hassan, à part.
Tout le tabac a été donné en gage à deux vieilles personnes contre les $200 d'argent qui vous ont été remis hier.
Sun, hésitant.
Y a-t-il quelque chose d'écrit ?
Non.
Sun, à la propriétaire, après un temps.
On peut s'arranger avec les 300.
Mais il faudrait encore que je sache si la boutique n'est pas hypothéquée.
Répondez.
La boutique n'est pas hypothéquée.
Quand les 300 seraient-ils disponibles ?
Après-demain. Et vous pouvez encore réfléchir. Si vous avez un mois devant vous pour la vente, vous en tirerez davantage. Je paye 300, et ça seulement parce que je veux bien y mettre du mien, quand il s'agit, semble-t-il, d'un jeune amour. Elle sort.
Affaire conclue. Petite boîte, petit pot et petit sac. Le tout pour 300, et fini la peine.
C'était donc plusieurs extraits de La bonne âme du Sichuan de Brecht, avec Jessica, Steven, Florent et moi. Et on vous invite évidemment à lire l'intégralité de la pièce, puisque on ne vous a pas tout dit, on vous a même caché beaucoup de passages, notamment la fin. On peut le dire, la fin ?
Oui.
en fait, la fin, c'est un peu une queue de poisson, ce qu'on disait tout à l'heure en discutant entre nous. Brecht finit en fait par une sorte d'escapade où il propose en fait au public d'imaginer sa propre fin et en gros de répondre à la question de comment aider réellement Shente dans ce monde de brut où l'argent est roi. Donc ça recoupe un peu tous les thèmes de Brecht, cette pièce de théâtre. Donc il y a l'exploitation, la misère, la pauvreté, la solidarité, et puis un peu le rejet encore de toutes les conventions bourgeoises comme le mariage, la religion. On peut noter un peu la première phrase des dieux qui a été dit au tout début, nous n'intervenons pas dans les questions économiques. Mais il y a plein d'autres choses à découvrir dans cette pièce.
Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà cette pièce a été écrite quand Brecht était en exil aux États-Unis. Elle a été écrite durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire quand son pays était ravagé par le nazisme. Et c'est assez présent dans toutes les pièces, et notamment dans toutes les collaborations qu'il a eues. Notamment avec alors je vais citer une petite phrase, parce qu'il a écrit, il a beaucoup collaboré dans une revue qui s'appelle Das Wort, C'était une revue anti-nazi, anti-fasciste, où plusieurs écrivains allemands collaboraient ensemble, et notamment Leon Furtwängler, qui a écrit, en fait, quand cet auteur a reçu le manuscrit de la Bonhomme de Sechon, a écrit à Brecht, « J'ai reçu le manuscrit de la Bonhomme de Sechon. C'est un petit miracle qu'au milieu de cette confusion barbare, vous ayez pu réaliser quelque chose d'aussi beau, clair, tranquille et classique. » Voilà. Et je crois que effectivement c'est intéressant de voir comment tout le contexte historique de l'écriture de la pièce peut ressurgir dans les textes qu'il écrit, où on retrouve justement, comme tu disais, toutes ces questions. Voilà. Enfin, c'est très intéressant.
Et avec cette petite fin, en fait, en point d'interrogation, on retrouve en fait le Brecht qui met en place ce qu'on appelle la distanciation, puisqu'en gros, il s'adresse directement au public de théâtre et dit « Bon, ben voilà, trouvez-nous une solution, puisque... on se doute bien que la seule solution possible, du moins dans la tête de Brecht, c'est un monde où l'exploitation n'existe pas, un monde du coup débarrassé de toutes ces questions triviales que sont le profit, l'argent et la loi du plus fort. Donc, parce que voilà, Shente, en fait, à la fin, ce qui arrive, en fait, c'est qu'elle est plus ou moins confrontée à une sorte de grogne collective, puisque Schwita, le cousin qu'elle s'est inventé, devient une sorte de gros capitaliste, puisqu'il fait il transforme le petit débit de tabac en grosse manufacture, où il fait travailler illégalement des vieillards, des enfants, dans les arrières-salles assez glauques d'une maison qui est prêtée par Choufou, le propriétaire qui veut se marier avec Shente. Et puis en fait tout le monde se plaint des conditions dures de travail, parce qu'ils travaillent pour un salaire de misère pendant des heures et des heures. Et il y a une sorte de procès politique, on va dire, qui est fait, procès populaire de Schwita. Et c'est les dieux qui interviennent, et qui, en gros, sont ravis de retrouver Shente. Et quand les dieux s'élèvent, en fait, dans le ciel en disant... Shente, continue tel que tu es, nous t'avons enfin retrouvé, notre seule bonne âme du Sichuan. En fait, c'est une façon pour Brecht de dénoncer le fait que les dieux peuvent vraiment absolument rien, en fait, pour elle, et il la laisse encore une fois seule à faire face à ses obligations. En plus, il faut savoir qu'elle est enceinte de l'aviateur Yangson. Et du coup, bah voilà, quoi, que rien n'est résolu pour elle, mais que les dieux lui souhaitent bien du courage et de la chance pour la suite.
Voilà, ça.
Oui. Non, en parlant de la distanciation, c'est exactement ça, et c'est pour ça, c'est aussi, je pense, que où il y a le double personnage de Shente et de Schwita, c'est-à-dire que c'est pour à la fois pour le public, et c'est pour ça que ça termine un peu en queue de poisson, où on ne donne pas la solution, c'est au lecteur et au public de la trouver, et c'est ça le principe de l'effet de distanciation, c'est-à-dire que comment rendre une chose habituelle totalement étrange, insolite, justement pour qu'on puisse se détacher de cette chose-là et à la fois mener cette réflexion, cette réflexion autour de la situation qu'on vit ou
pas.
Et justement, c'est toute cette période où il écrit ses grandes pièces, du moins les pièces les plus connues. Et voilà, où assez régulièrement il y a cette idée de double jeu, justement pour apporter cet effet d'étrangeté.
C'était vraiment radical, hein, déjà. Pour l'époque, déjà, il traitait de sujets qui étaient en soi, on va dire, engagés, militants, mais en plus, il a créé un théâtre à part entière qui pose la question de la non-identification du public avec ce qui se passe sur scène. Il rompt complètement avec la tradition aristotélicienne du théâtre, qui voulait qu'il y ait une sorte de... comment on appelle ça,
un mimétisme. D'identification, voilà. de que les spectateurs, le public s'identifie au héros et du coup traverse avec le héros les péripéties qui survenaient dans les pièces.
Ouais, c'est ça.
Pour que à la fin le public soit purgé de ses
ses mauvaises pensées,
la catharsis.
Ouais, c'est ça.
En même temps que le héros.
Et Brecht permet au public de réfléchir
par eux-mêmes aux problèmes posés par la pièce et aux solutions données par les personnages. Et justement, il empêche cette identification donc par les jeux, par le dédoublement, là, par exemple, de Shente et Shuita. Une étrangéisation des personnages qui fait que le spectateur ne peut plus s'identifier au personnage et est donc obligé de réfléchir à côté des solutions données par les personnages à qu'est-ce qu'il aurait fait lui. Voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'à aucun moment Brecht il manipule le public en disant ah mais regardez c'est mal le capitalisme c'est mal les riches c'est mal, en fait il joue les scènes,
c'est ça. Il y a une espèce de j'allais dire de franchise en fait, et il donne des faits sans les juger de prime abord dans la pièce, et c'est du coup au spectateur de se faire son propre jugement. Il donne des faits bruts et du coup oui, c'est au spectateur de je sais pas de trier les informations de se faire sa propre idée.
Enfin, Brecht a quand même un petit peu de mais quand même sa patte. Je me souviens d'une des répliques en fait de Shente dans une scène qu'on a coupée et qui moi qui m'a fait beaucoup d'effet en la lisant, c'est Shente en fait qui regarde le public et après en fait que personne en fait toutes les personnes qu'elle héberge en fait et qui la parasitent, parce que véritablement il lui, alors qu'elle est bonne, qu'elle est charitable envers eux, ils lui prennent maximum jusqu'à la moelle, et puis en plus ils se plaignent en fait qu'elle va aider encore d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à la rue eux-mêmes d'autres personnes qu'elle aurait hébergées. Et donc à un moment donné elle se tourne vers le public et elle dit à chaque fois qu'il y a une injustice, quel que soit l'endroit du monde, il faut qu'il y ait une émeute. Et j'ai trouvé ça juste extra, comme en fait, à un moment donné, elle ne fait pas que juste se résigner, elle exprime des sentiments aussi de désir de révolte. Même si c'est une fille qui prend tout sur elle, qui ne va pas parler plus haut, qui va toujours tendre la main... Elle est révoltée fondamentalement par la misère, la pauvreté, et elle a, enfin, on peut dire que pour le coup, c'est vraiment une bonne âme.
Moi, ça me fait penser à la période qu'il a vue avant, la période des Lehrstück. C'est une sorte de petite pièce didactique où justement il y avait des petites situations et justement c'était les débuts où il essayait je pense d'expérimenter des moyens pour que le public se pose des questions sur le monde qui l'entoure, sur toutes les situations qu'il peut vivre, et pas seulement les recevoir et rien faire, mais justement les recevoir et essayer de se battre contre, j'ai presque envie de dire la fatalité, mais c'est juste qu'on n'est pas impuissant face aux choses qui nous arrivent. On a tous la possibilité, la capacité de se battre contre ça. Et c'était vraiment ce qu'il défendait avec la distanciation. C'était vraiment on peut faire quelque chose. Et je crois que c'est ce qui est
présent dans cette pièce.
Ce qui est présent et ce que je trouve à la fois ce qui fait toute la singularité de ces pièces, des pièces de ces pièces où il traite de la distanciation, parce qu'il les traite pas dès ses premières pièces, mais Mais cela dit, ces autres pièces sont magnifiques. Je crois que la semaine dernière, vous avez lu Bâle, et pour moi, c'est une de mes pièces préférées. Voilà, mais.
C'est une de ses toutes premières
pièces. Une de ses toutes premières pièces. Et, voilà, et c'est ça aussi qui fait sa richesse. C'est, je crois que c'est tellement varié que voilà, il y a tellement de théories derrière et que du coup chaque pièce a vraiment quelque chose de très singulière.
On va être justement amené à relire en fait du Brecht dans les semaines qui vont venir, puisqu'on a décidé de faire une sorte de thématique, un cycle autour de Bertolt Brecht. Donc on a commencé effectivement avec Bâle, aujourd'hui donc La Bonne Âme du Sechuan, et en fait on va lire une prochaine pièce. J'ai pas la date en tête, mais d'une période un peu plus tard de sa vie. Et puis on reviendra aussi sur le côté plus théorique avec la lecture d'extraits du Petit Organon. C'est le manifeste, on va dire, qui expose en fait la méthode brechtienne par lui-même. En attendant, d'ici là, on va entamer un nouveau cycle en fait en parallèle, puisque on est un petit peu des fous, on fait tout en même temps. On va entamer le cycle en fait sur les auteurs femmes, puisqu'on avait très envie avec Jessica et puis Mathieu Grenier de lire des textes de femmes, et on commencera la semaine prochaine avec une pièce de Biljana Srebljanović, qui est donc une auteure femme serbe, si je ne me trompe pas. Et voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. On continuera à découvrir et à parler de Brecht un peu plus tard.